Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral après la conférence de presse Moment de vérité qu'a présenté Monsieur Bayrou, dans laquelle il a évoqué la nécessité de retrouver un budget à l'équilibre avec une dette qui se creuse selon lui depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, je suis avec Madame Marie-Josée Allemand, députée des Hautes-Alpes, pour en parler ensemble. Bonjour Madame Allemand.
Bonjour.
Merci de nous avoir accordé cette interview. Et alors, Monsieur Bayrou a publié un plan budgétaire qui a fait beaucoup réagir l'opinion publique, auquel vous avez réagi également. C'est donc pour ça que nous sommes ensemble aujourd'hui. Globalement, vous semblez plutôt contre. Je ne pense pas trop m'avancer en disant ça. Vous évoquez même une taille dans le vif.
Oui, tout à fait. C'est ce budget, cette proposition que nous a fait le Premier ministre, c'est pas une proposition, hein, c'est quelque chose qui est d'une grande brutalité. Je l'ai dit, je m'en suis exprimé. Enfin, je crois qu'on n'a jamais vu une telle présentation et de telles pistes sur notre pays, des pistes qui n'en sont pas finalement, parce que c'est une, à mon sens, une grande catastrophe pour notre pays.
Alors, pour parler un peu de quelques grands points ensemble, il y a notamment dans ce plan, dans cette proposition, un effort qui est demandé aux collectivités à hauteur de 5,3 milliards d'euros à l'échelle nationale. Nous, ici, dans les Hautes-Alpes, nous sommes dans un territoire un peu plus rural, les collectivités sont plus petites. Quelles sont vos inquiétudes à propos de cet effort qui est demandé aux collectivités ?
Les collectivités sont une partie entière de notre territoire et ce sont d'abord elles qui investissent et qui donnent de l'emploi à nos entreprises. Donc, aller demander un effort aux collectivités, aller demander un effort aux entreprises, aller demander aussi un effort aux classes populaires et aux classes moyennes. Aujourd'hui, on voit que c'est toujours les mêmes qui vont trinquer. Moi, je pense que on devrait d'abord regarder la contre-proposition que nous avons faite, qui est de faire payer les 200 000 contribuables les plus aisés, et on n'aura pas beaucoup moins de problèmes avec notre budget.
Alors justement, vous évoquez une contre-proposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
C'est très simple. C'est un impôt sur la solidarité, tout simplement. Et plutôt que de proposer de supprimer des jours fériés pour, encore une fois, les salariés, supprimer un jour férié, c'est un impôt sur la vie, hein, tout simplement. Moi, je suis atterrée d'avoir entendu ce que j'ai entendu, notamment sur le 8 mai. Enfin, c'est un jour de mémoire. C'est un jour de mémoire. Et quel que soit le jour férié, c'est les salariés qui vont payer l'addition. Encore, moi, je n'hésite pas à le dire. Hein. C'est un impôt sur la vie.
Et donc, dans cette contre-proposition, vous évoquez justement de taxer, si je comprends bien, les plus riches, les plus grandes fortunes.
Et oui, tout simplement, parce que ce sont les grands absents de la solidarité nationale. Et aujourd'hui, un tel budget, de telles propositions, ce n'est même pas envisageable.
Alors, dans la proposition de budget de Monsieur Bayrou, il y a aussi d'autres points sur lesquels je souhaitais vous faire réagir, et notamment la réduction du train de vie de l'État et une meilleure maîtrise du patrimoine de l'État. Je cite le document sur lequel Monsieur Bayrou a communiqué. Il y a donc une réduction du train de vie de l'État. Quelles sont vos réactions par rapport à ça ? Est-ce que, par exemple, vous, en tant que députée, vous seriez prête à proposer de réduire vos indemnités parlementaires, par exemple, entre autres ?
Est-ce que vous croyez vraiment que ça va réduire les 44 milliards de dettes que l'on a ? Je ne pense pas, parce que réduire le train de vie de l'État, nous, aujourd'hui, en tant que députés, on a un déontologue qui vérifie l'ensemble des dépenses et notre train de vie, on va appeler ça comme ça. Par contre, l'État n'a aucun déontologue pour vérifier ce qu'il dépense. Notamment, on peut parler de notre président de la République, de nos ministres qui se déplacent avec des jets privés ou autres. Là, oui, c'est un train de vie de l'État. Par contre, les députés, moi aujourd'hui, je mets 15 heures pour aller à l'Assemblée nationale faire l'aller-retour du département. Vous savez, moi, ce qui me gêne le plus aujourd'hui, c'est que dans ce budget, on nous parle de réduire les dépenses, de dépenses, de redépenses. Mais quand on regarde un budget, on a un volet recettes à regarder. Et ce volet recettes, on n'en a pas entendu un seul mot de notre Premier ministre. Et là, je pense que si on commençait par le volet des recettes, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer ce point ? Est-ce que, selon vous, il y a des recettes à aller chercher à d'autres endroits ?
On voit bien que les plus grandes fortunes, et j'y reviens là-dessus, ils ne sont absolument pas impactés. Lors du dernier budget, M. Woerth nous a indiqué qu'il ne fallait absolument pas toucher aux milliardaires parce qu'ils vont partir. Enfin, c'est une blague. Jamais personne n'est parti à quitter notre pays ou c'est à la marge. C'est une des pistes qui pourrait quand même ramener beaucoup, beaucoup d'argent à l'État.
Donc, selon vous, ça ne serait pas un risque, justement, de proposer à ces grandes fortunes de participer à l'effort à plus grande échelle ?
Je ne pense pas. D'ailleurs, certains d'entre eux sont tout à fait d'accord pour participer à l'effort de notre pays. Et encore une fois, on tape sur les classes populaires, on tape sur les classes moyennes, on va taper sur les entreprises, on va taper sur les collectivités, mais il en manque. Hein. Il en manque. On n'a pas fait le tour de l'ensemble de la population française.
Et pour revenir aussi, vous parlez justement des classes populaires et également, vous évoquez aussi les actifs qui sont grandement mis à mal dans ce budget, selon vous, et notamment via l'accès au chômage qui risque d'être modifié dans un département où nous avons beaucoup de saisonniers, par exemple. Quelle est votre réaction là-dessus ?
Bien, encore une fois, c'est les territoires ruraux qui vont payer la note. Parce qu'un département comme le nôtre, c'est le tourisme et l'agriculture qui le font vivre. Hein. Ce sont les deux jambes de notre département. Et lorsque l'on regarde, ce sont les pourvoyeurs de 82% des emplois. Donc aujourd'hui, c'est venir toucher directement notre département. Parce que les saisonniers, donc ils travaillent l'hiver en station, l'été en arboriculture et ou en restauration, ces personnes-là, entre les deux, évidemment qu'elles perçoivent le chômage. Et encore une fois, notre département va être largement impacté avec cette réforme parce que les saisonniers sont indispensables pour faire vivre notre département.
Et justement, par rapport à ça, M. Bayrou propose un soutien exceptionnel de 300 millions d'euros aux départements les plus en difficulté. Est-ce que vous pensez déjà que ce soutien est réaliste au vu du plan budgétaire et surtout, est-ce que vous pensez que les Hautes-Alpes, entre autres, pourraient en bénéficier ?
Alors, ça serait une excellente nouvelle pour notre département. Seulement, moi, j'y crois pas du tout. À chaque fois que l'on propose quelque chose ou une piste d'amélioration, on nous met en avant le déficit de notre pays. Donc, quels départements vont être bénéficiaires de cette mesure-là et sous quelles conditions ? Quelle est la condition qui va avec ? Parce que je ne le vois pas faire un chèque en blanc à notre département, ce n'est pas vrai. Donc moi, je n'y crois pas du tout. Je pense plutôt qu'il ferait bien de réfléchir à l'incidence que va avoir son budget sur notre département plutôt que d'envoyer des mesurettes qui ne compenseront jamais la dépense qu'on va avoir.
Et puis par rapport, j'en reviens au budget de l'État, mais donc dans cette idée de stabiliser le budget de l'État, il y a quand même un petit aparté, une exception qui concerne les dépenses de la défense. Quelle est votre réaction à propos de cette exception ?
Écoutez, je suis tout à fait consciente qu'il faut qu'on améliore le budget de la défense, mais aux dépens des écoles, aux dépens des hôpitaux, aux dépens de... Alors, où tout le monde est bénéficiaire ou pas. Et c'est un petit peu ce qui va pêcher dans ce budget. Parce que moi, je regrette vraiment. On a demandé au Premier ministre depuis des mois de travailler sur ce budget tous ensemble pour pouvoir avoir un budget acceptable pour tout le monde et que tout le monde puisse contribuer parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes idées. On a eu une fin de non-recevoir. On a vu cette déclaration qu'il a faite le 15 juillet, juste après que les travaux de l'Assemblée nationale aient été terminés. Hein. C'est pas anodin non plus. Donc voilà, il va être tranquille pour l'été. Moi, je regrette vraiment qu'on n'ait pas pu mettre l'ensemble des financiers au travail, l'ensemble des groupes politiques au travail pour avoir un budget acceptable pour notre pays. Aujourd'hui, en l'état, c'est un budget qui n'est absolument pas acceptable et je pense que de nombreuses voix politiques de droite comme de gauche l'ont signifié à M. Bayrou.
Est-ce que, si je comprends bien ce que vous m'expliquez, vous évoquez le fait de ne pas avoir été assez consulté pour ce budget finalement ?
On n'a pas été consulté du tout. Pas été consulté du tout. On va nous rendre une copie probablement le 1er ou le 2 octobre à la rentrée parlementaire de la session ordinaire sans avoir mis le nez dedans. Et c'est une catastrophe pour notre pays.
Et donc vous avez proposé une contre-proposition justement face à ce budget. Est-ce qu'il y a d'autres réactions que vous souhaiteriez amener jusqu'à l'Assemblée nationale ?
Aujourd'hui, moi, je crois qu'on est tous conscients que notre pays a des grosses difficultés financières. Mais encore une fois, cherchons des recettes. Cherchons des vraies recettes au lieu de dire on va diminuer des dépenses. Oui, il faut diminuer les dépenses, mais cherchons les vraies recettes pour notre pays. C'est un point d'achoppement d'ailleurs, hein, puisqu'on n'a pas les mêmes idées. Et je trouve que c'est dommage.
Et donc ces recettes, selon vous, elles seraient trouvables dans quel secteur ?
Tout le monde doit participer. Encore une fois, je vous l'ai dit. Là, on n'a qu'une tranche de population qui est touchée. Ce sont les gens qui travaillent, ce sont les entreprises et ce sont les collectifs. On ne parle pas des grandes fortunes, on ne parle pas des gens qui ont largement les moyens financiers de contribuer à notre pays, à l'aide à notre pays. C'est quand même quelque chose qu'on doit prendre en compte.
Et puis avant de passer à un deuxième sujet qui est celui de la loi Duplomb sur lequel je voulais vous interroger, une dernière chose concernant cette proposition de budget. Une partie de l'opinion publique pense à une motion de censure, à une censure du gouvernement. Quelle est votre position à ce propos-là ?
Moi, je pense qu'on y va, hein, tout simplement, hein, parce que je ne vois pas, on ne va pas aller négocier des mesurettes en se disant « Ah oui, super, on a gagné là-dessus » et à la fin, on finit au 49-3. Donc, parce que ce budget n'est pas acceptable. Et même en l'amendant, il ne restera pas acceptable. Le Premier ministre nous propose quand même une année blanche. Et cette année blanche, ça va être une année noire. Parce que tout le monde, toutes les populations que j'ai citées, vont être impactées. Et il n'y a rien de pire que de regarder ce qui se passe. Les entreprises, elles ne vont pas investir. Elles ne vont pas investir puisqu'on va leur taper dessus. Donc voilà, les collectivités, on aura le même sujet. Et puis, les salariés, ils vont subir.
Sans parler des sujets de la santé, bien sûr, que j'ai eu l'occasion d'évoquer avec la Mutuelle de France Alpes du Sud, on ne s'attardera pas dessus. Je voulais par contre profiter d'être avec vous pour vous faire également réagir sur un autre gros sujet de l'actualité qui est la loi Duplomb. Actuellement, elle fait beaucoup débat aussi parmi l'opinion publique, parmi l'opposition. Il y a eu une pétition qui a, à l'heure où je vous interroge, recueilli près de 1 930 000 voix. Quelle est votre position justement concernant cette loi ?
Moi, je m'en suis exprimée et je n'ai aucun état d'âme à dire que j'ai voté contre cette proposition de loi qui va à l'encontre du bien des populations et des gens en général. Tout le monde a pu constater une première quand même à l'Assemblée nationale où l'Assemblée nationale n'a pas pu débattre sur cette loi. Absolument pas pu débattre. On a retiré, le député Dibes, qui était rapporteur, a retiré le débat sur cette proposition de loi. C'est gravissime. L'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée du tout. Aujourd'hui, c'est le Sénat qui a fait cette loi et qui l'a validée, qui l'a promulguée. Et ce n'est pas en commission mixte paritaire qu'on a pu y discuter. Voilà, on a mis les choses sur la table, on a dit « c'est comme ça ». Eh bien, non, nous ne sommes pas d'accord sur le « c'est comme ça ». Et aujourd'hui, la mobilisation citoyenne montre que nous avions raison d'alerter sur la problématique de cette loi. Parce que ce n'est pas une loi uniquement sur des pesticides. On va autoriser les méga-élevages, les méga-bassines. Enfin, c'est une reculée historique sur l'écologie. Et je ne suis pas une écologiste va-t-en-guerre. Je pense que je suis quelqu'un qui est relativement raisonné et raisonnable sur des propositions. Et encore une fois, cette loi est une pure folie.
Je me permets d'ailleurs de souligner que vous connaissez très bien le milieu agricole. Vous-même avez travaillé dans l'élevage, entre autres.
Mais je suis toujours agricultrice. J'ai toujours mon élevage avec mon mari et mon fils. Oui, moi, je suis une agricultrice et je pense que cette loi est inacceptable. Inacceptable, surtout quand, en plus, on enlève le débat à l'Assemblée nationale.
Je crois qu'on va pouvoir conclure. Je vous remercie beaucoup, Madame Allemand, de m'avoir accordé ce temps.
Fréquence. Fréquence Mistral.